Bonsoir, bienvenue dans cette édition de Tribune de la Presse. Trois thèmes vous sont proposés, à savoir le président de la République, Joseph Kabila, a tenu son discours hier jeudi à New York au cours de la 76e Assemblée Générale des Nations Unies. Ensuite, revendication de magistrats, le gouvernement dit ne pas être en mesure d'accorder en ce moment les 1 600 $ tels qu'exigés par les magistrats. Enfin, processus électoral dans la République démocratique du Congo, la CENI a répondu favorablement lundi dernier au préalable de l'opposition politique, notamment l'audit du fichier électoral par 5 délégués de l'opposition et 5 de la majorité présidentielle. Participe à ces débats, trois confrères journalistes. Il s'agit de Joachim Diana, il est directeur de publication du journal La Colombe. C'est un prix hebdomadaire qui paraît ici à Kinshasa. Bonsoir Joachim Diana.
Bonsoir Dimitri.
Bernard Mouy, il est directeur général du journal La Renaissance de la Nation. C'est un hebdomadaire qui paraît ici à Kinshasa. Bonsoir Bernard Mouy.
Bonsoir.
Serge Sikouli, le journaliste à la radio Moto à Butembo Beni, une radio qui émet depuis Butembo au Nord Kivu. Bonsoir Serge Sikouli.
Bonsoir.
Joseph Kabila à New York, les revendications des magistrats ainsi que la réponse de la CENI à l'opposition. On écoute cette revue de presse que nous propose Samuel Kakiak pour savoir comment la presse a traité ces différents thèmes.
Bonsoir. Le palmarès souligne que la controverse autour du salaire des magistrats oblige le SINAMAC, syndicat autonome des magistrats du Congo, à maintenir la grève décrétée dans cette corporation. Selon le SINAMAC, il n'y aura ni reprise du travail, ni service minimum dans les parquets et tribunaux du pays, conclut le palmarès. Pour le phare, cette décision ne fait pas l'unanimité entre les magistrats, dont certains syndicats ont brillé par leur absence dans l'Assemblée générale convoquée pour cette fin. Il s'agit du CIMCO, Saint-Clément et Jussi, qui ont dit attendre la concrétisation de la promesse du président de la République sur l'amélioration de leurs salaires dès la fin du mois d'octobre prochain. Sur un autre registre, l'Avenir rapporte que la CENI est d'accord pour que l'opposition audite le fichier électoral, mais refuse une campagne électorale anticipée. Selon le confrère, la CENI condamne avec la dernière énergie la campagne électorale anticipée à laquelle certains partis et acteurs politiques se livre à ce jour. S'agissant toujours de l'audit du fichier, l'observateur indique que l'opposition a demandé à Ngoï Moulunda de ne pas conditionner cette démarche par la présence des délégués de la majorité. Ils n'ont d'ailleurs pas demandé cette audit. Entre-temps, la prospérité estime que dans les discussions engagées entre la CENI et les opposants, il se dégage que les deux parties ont convenu de mettre sur pied une équipe constituée de 5 délégués de l'opposition politique et 5 autres de la majorité présidentielle. Concernant la campagne électorale anticipée, le potentiel rapporte qu'elle préoccupe la CENI. Cette institution a d'ailleurs rappelé à l'ordre les partis politiques qui s'y adonnent, particulièrement le PPRD, dont les affiches arborent les grandes villes du pays. Rappelons que l'actualité aujourd'hui est aussi dominée par l'adresse du président congolais à la 66e Assemblée générale de l'ONU. Du haut de la tribune des Nations Unies, Joseph Kabila a axé son discours sur le processus du développement de la RDC et sur la réforme des Nations Unies face à la gestion des grandes questions internationales. Le président congolais a à cet effet, exprimer le vœu de voir la MONUSCO être commuée en une mission de l'ONU pour le développement de la RDC.
Merci Samuel Kakiak. Un petit commentaire par rapport à cette revue de presse. Joachim Diana, vous êtes directeur de publication du journal La Colombe, un prix hebdomadaire qui paraît ici à Kinshasa. La qualité, c'est aussi la publication par la CENI des listes provisoires des candidats à la députation nationale. C'est plus de 13 000 candidatures.
Oui, il y a au total 14 000 sur toute la province, 14 700 et quelque chose, et pour 500 sièges. Donc il y aura au moins 14 200 qui vont déchanter, comme on dit dans la ville, beaucoup d'appelés n'ont été délits. Donc nous voyons que ça sera une lutte rude, et cette lutte-là, nous nous le disons à la Colombe, même au sein des familles politiques. Et je pense même qu'il y aura des alliances qui vont éclater, parce qu'en fait, il n'y a aucune disposition qui dit que les candidats, pendant les élections, pourront être conduits par une certaine solidarité. Ça sera de chacun pour soi, Dieu pour tous. Je dis même au niveau de l'AMP, où la charte dit qu'il faut la solidarité, mais on ne voit pas. À quel moment elle va intervenir, donc ça sera chacun pour soi, Kabila pour tous.
Bernard Mouillet, vous êtes le directeur général du journal La Renaissance de la Nation, c'est un hebdomadaire qui paraît ici à Kinshasa. Dans votre journal La Renaissance de la Nation, l'apparition d'hier jeudi, vous titrez sous la manchette Bemba Kamere, alliance en perspective. Cela veut dire qu'on peut s'attendre incessamment à un accord entre les deux personnalités.
Oui, exactement, c'est beau, ça relève d'une grande probabilité. Dans la mesure où nous savons que du côté opposition, les plus grands partis politiques sont l'UDPS, le MLC, l'UNC, avec un toile de fond, un quatrième qui est l'UC de Kengo. Je pense bien que le MLC n'ayant pas eu de candidat officiellement parce que Bemba est toujours retenu à la haie aux Pays-Bas, ce parti va jouer un rôle d'arbitre. Il me semble que entre M. Kamere et Tshisekedi, la plus forte probabilité est que le MLC puisse se pencher du côté de Kamere pour deux raisons principales. La première, c'est qu'il y a quand même un contentieux entre le MLC et l'UDPS qui n'avait pas voulu mobiliser ces gens en 2006. Deuxième chose, l'UNC se montre beaucoup plus modeste en allant faire la demande là où l'UDPS... C'est carrément le dos rond, il dit où vous vous rangez derrière moi, où vous ne venez pas. Donc, le ministère Sama semblait sensible à cette modestie, cette humilité dont a fait preuve l'UNC vis-à-vis de lui.
Évidemment, ça c'est une analyse faite par les directeurs généraux du journal La Renaissance de la Nation. Serge Sikouli, vous êtes journaliste à la radio Moto à Butembo Beni, une radio qui émet depuis la ville de Butembo au nord de vous. Quelle est l'actualité à la une dans cette partie du pays?
De ce côté aussi, c'est en fait les échéances électorales qui sont en train pratiquement de faire la une dans tous les médias de ce côté-ci. Et à l'instant de Kinshasa, la Commission électorale nationale indépendante et le bureau de Butembo a lancé aussi une sévère mise en garde. En fait, la pré-campagne, précisément, se passait aussi déjà dans plusieurs médias où les candidats donc, qui ont proposé leur candidature au niveau des élections à la députation commençaient déjà à faire parler d'eux à travers quelques médias. Et c'est cela même dans les grands points qui, pratiquement, qui a fait la une donc, des médias de ce côté-ci.
Merci. Notre premier thème, le président de la République, Joseph Kabila, a tenu son discours hier jeudi à New York au cours de la 66e Assemblée générale des Nations Unies. Du haut de la tribune de cette institution, Joseph Kabila a axé son discours sur le processus de développement de la République démocratique du Congo et sur la réforme des Nations Unies face à la gestion des grandes questions internationales. Les grandes lignes de ce discours avec Michel Kifindangoy.
Avant toute analyse, le président Joseph Kabila se félicite des avancées significatives dans la modernisation de la RDC. Il reconnaît tout de même les difficultés auxquelles son pays est confronté pour son développement intégral. Le président congolais exprime à cet effet le vœu de voir la MONUSCO être commuée en une mission de l'ONU pour le développement de la RDC. Face à la question de la lutte contre le changement climatique, Joseph Kabila plaide pour une nouvelle approche.
Les questions relatives au changement climatique et à la protection de la nature exigent une modification d'approche qui tienne compte des aspirations de tous les peuples.
Le président congolais dénonce également une politique de deux poids deux mesures entre les puissances nucléaires et le pays en développement. À cet effet, Joseph Kabila plaide pour un conseil de sécurité qui tient compte des aspirations de toutes les nations.
Un conseil de sécurité qui intégrerait autant les aspirations légitimes des pays en développement et de l'Afrique en particulier sera sans doute plus légitime.
Pour terminer, Joseph Kabila renouvelle son vœu sur la modification de la conception et la conduite des affaires internationales. Et ce, par un engagement effectif et sincère de l'ensemble de la collectivité des nations en faveur du renouveau et du renforcement du système multilatéral.
Je vois qu'il y en a. Lorsque vous suivez le discours du chef de l'État aux Nations Unies, quelle analyse vous en faites?
Oui, mais de toute façon, les discours que l'on tient aux Nations Unies sont essentiellement les discours protocolaires. Mais cela n'empêche que les chefs d'État saisissent l'occasion pour aborder les grandes questions du monde, notamment ce qui concerne notre pays, le processus électoral. Et c'était l'occasion de dire à tous les membres de l'ONU d'où on vient, où on est et où est-ce qu'on va avec ce processus. C'était aussi l'occasion pour cette question de la MONUSCO. Pour le chef de l'État, en ce qui concerne la MONUSCO, je pense que c'est une constance. Il a toujours dit que la MONUSCO devrait troquer les armes avec autre chose, le développement là-haut. Ceci sera apporter plus le développement que la guerre, parce qu'en fait, on ne voulait plus avoir le traumatisme d'un pays éternellement assisté par la plus grosse mission de l'ONU, ce qui donne l'impression à l'extérieur que vraiment le petit pays là n'est pas sûr pour que la communauté internationale puisse entretenir une grande force là-bas. Donc il faut que la MONUSCO change d'option, d'objectif, c'est-à-dire maintenant le développement. Pour Kabila, c'est vraiment une constance. Le développement du Congo, il a dit le premier jour de son investiture, en disant par exemple qu'il va s'engager à faire de ce pays la Chine d'Afrique, c'est-à-dire quoi, un pays émergent. Il y est revenu dans son discours des c'est vraiment une constance. J'estime que Joseph Kabila, en disant cela, nous permet de rêver. Et ce sont des rêves qu'on concrétise et qui deviennent des réalités.
Bélard Mbouyi, Diana a évoqué cette question. Le chef de l'État souhaite que la MONUSCO soit mise en une mission des Nations Unies pour le développement de la RDC, selon Diana. Et c'est une constance, ce n'est pas une nouveauté. Ça a toujours été une demande du chef de l'État. Mais vous, comment vous analysez cette demande de Joseph Kabila?
Bien, moi, ça me semble plutôt nouveau. Ça, c'est une nouvelle terminologie que j'ai entendue hier soir quand le président a parlé du haut de la tribune de l'ONU à New York. Pour dire quoi? Pour dire ceci, vers les années, juste après son élection 2007-2008, il y a des gens qui réclamaient le départ de la MONUC à l'époque, ou du Congo, c'est les gens du CNDP de Laurent Kunda. À l'époque, le gouvernement s'y opposait. Il disait, non, vous devez rester. Pourquoi? Certainement, il y avait une maison valable. Il y avait justement encore le CNDP qui faisait la belligérance. Le CNDP estimait que sans la MONUC, il pouvait bien avancer sur ce terrain. Bien, la menace CNDP ayant été écartée, le président de la République a commencé à réclamer le départ de la MONUC à l'époque de ça. Il n'a jamais dit qu'on l'a mis en mission de développement. Je ne sais pas si l'ONU a prévu de transformer ces missions en mission de développement dans quel pays, je ne suis pas au courant de cette possibilité-là. Peut-être qu'elle existe, j'en conviens. Bien, bon, maintenant, il dit, voilà, je veux la changer en mission de développement. C'est une option, mais elle est nouvelle, il faut dire les choses telles qu'elles sont, elle est vraiment franchement nouvelle, mais il faut encore que l'on se montre capable de pouvoir gérer la suite. Parce que jusqu'à présent, il y a encore de l'ELRA, par-ci, par-là, il y a des FDLR, ce n'est pas encore fini. Dans Chabunda, pour libérer certaines localités, j'ai suivi sur votre radio, ce sont les Maïmaï de Raya Mutombo qui sont allés faire la guerre à la place de Sardeske, ainsi de suite. Bon, je peux dire que dans notre région ici, il y a eu des gouvernements qui se sont montrés vraiment capables de maîtriser le contrôle total de leur pays. Je prends l'exemple du Rwanda. Dès que les rebelles du FPR ont pris le pouvoir en juillet 1994, ils n'ont plus fait une année avec la MINUAR, dont la mission des Nations Unies qui était au Rwanda. Ils ont exigé son départ et ils tiennent leur pays depuis lors jusqu'à aujourd'hui. Et vous sentez qu'il existe là-bas un État fort qui contrôle réellement le pays. Ce n'est pas encore le cas au Congo, malheureusement.
Serge Tchikouli, le président de la République dénonce une politique de poids des mesures entre les puissances nucléaires et les pays en développement par rapport à la gestion des grandes questions de l'ère.
En fait, il faut d'abord que la plupart des États et les populations, toutes les populations dont on traverse le monde, que décidément, cette situation est vécue car ce sont pratiquement ces grandes puissances nucléaires sont elles qui contribuent dans le gros du budget des Nations Unies. Et par conséquent, celui qui donne plus, il a un mode supplémentaire à pouvoir placer par rapport à cette question-là. Cependant, je pense que si le président a bien voulu bien sûr soulever ce point, c'est réellement une réalité. Et dans l'état actuel des choses, avec des avancées, une évolution à grande vitesse de la situation actuelle, c'est une bonne chose de proposer cela. Et quand cela soit accompagné par l'aspect financier, si vous voulez bien sûr que votre mot soit vite entendu, il faut que vous soyez en mesure aussi de vous imposer à un certain moment. Mais lorsque, par exemple, on demande que c'est la politique de deux points de mesure qui se fait simultanément, alors qu'on sait que, par exemple, la plupart des pays du tiers monde sont des petits contributeurs dans ce qui est dans le budget des Nations Unies, et là, il y aura toujours un problème. Tout en principe va de pair avec les intérêts, ensemble des intérêts. Et lorsque vos intérêts sont plus assurés que ne peut-être pas, ce n'est que très compréhensible. Jusqu'à preuve du contraire, je sais que la plupart des cas de puissance nucléaire, la plupart des puissances sont d'abord des puissances économiques, et aussi longtemps que nous ne nous aurons pas alignés sur l'état de ces puissances économiques, aussi, donc jusqu'à ce moment-là, nous aurons toujours beaucoup de peine à pouvoir nous imposer aussi dans les conseils de sécurité des Nations Unies, ou même sont au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies.
Ce discours du chef de l'État ne peut-il pas être considéré comme étant une interpellation de Joseph Kabila à l'endroit des grandes puissances, hein, lorsque il renouvelle son vœu sur la modification de la conception et de la conduite des affaires internationales?
Oui, mais tout à fait. Je réponds à ce que je me réfère, pour dire que pour Kabila, justement, le départ de la MONUSCO n'avait jamais été une demande récente. Vous vous souvenez autrefois, lorsque le chef d'État avait parlé, il avait demandé, déjà, puisque l'ONU, la MONUSCO arrivait au terme de son mandat, et le président avait demandé qu'on puisse déjà commencer à échelonner ça. Donc, ce qui veut dire qu'il ne voulait pas un départ brusque un jour ou l'autre. Mais il avait demandé le chômage. Et il avait déjà, je crois, deux, trois reprises. Je ne vois pas des occasions, demander à ce que la MONUSCO et la MONUSCO se transforment en mission de développement. C'est la énième fois qu'il demande ça. Et il avait même voulu que les forces qui sont dans des provinces qui sont où la paix est là, puissent se retrouver là où il y a de vrais problèmes. C'était ça la demande. En ce qui concerne la duplicité et la politique de deux poids, deux mesures, en ce qui concerne le puissance nucléaire, vous voyez, lorsque on parle par exemple de l'environnement, ce sont ces pays-là le plus grand pollueur. Ils polluent et ils ont l'Amazon, ils ont terminé leur forêt, grâce à leur forêt, ils se sont développés et ils veulent que nous puissions garder nos forêts dans notre sous-développement et que cela puisse le permettre de se développer. Ce sont eux, vous prenez le cas aujourd'hui en Libye, mais ce sont eux qui viennent faire la guerre en Libye et qui bombardent. Mais maintenant, les armes qui sont au Sahel, ce sont des pays des environs qui vont en souffrir. Et tu vois ce qu'ils font en Israël avec, par exemple, ils refusent leur hypocrisie d'accepter la Palestine comme état indépendant. Ce sont eux qui décident, mais qui paye la facture. Ce sont le pauvre, les pays pauvres qui sont. Mais moi, je pense qu'il faudrait que le rapport de force puisse. On peut être puissant et être moral. Je suis puissant, mais la puissance, ce n'est pas pour écraser les autres. Donc, je pense qu'il y a lieu que les gens changent de politique et en changeant de mentalité.
Et bien, c'est un discours opportun.
Opportun.
Bernard Bouilly, par rapport à la lutte contre les changements climatiques, des réflexions ont été développées, approfondies, des réunions ont été initiées, mais rien ne change. Les grands pollueurs continuent à polluer. Le président Joseph Kabila n'a-t-il pas raison lorsqu'il propose une modification d'approche?
Bien entendu qu'il a raison sur ce plan. Il est tout à fait quand même étonnant que Barack Obama, quand il a été élu, il avait promis que lui au moins il permettrait que les États-Unis puissent appliquer les accords de Kyoto. Jusqu'à présent, il n'en est pas encore rien. Vous imaginez, il tente déjà vers la fin de son mandat. Et ce n'est pas normal. Les grands pollueurs doivent être les grands payeurs également. Ça c'est juste. Mais il va de soi que nous n'allons pas nous permettre nous-mêmes de détruire, par exemple, notre forêt parce que nous avons besoin de développement. Non. C'est aussi dans notre intérêt que nous gardons notre forêt parce qu'il y a la menace de désertification qui est là, qui est omniprésente aussi. Nous sommes
au milieu des deux déserts. En fait, nous avons le Sahara au nord, nous avons le Kalahari au sud. C'est des déserts qui peuvent avancer. De temps en temps, on sent déjà les attaques de désertification au sud de la province du Katanga, de temps en temps. Déjà. Donc, nous devons prêter attention à cela. Concernant Guy, je suis vraiment sur la scène Simo, sur les rapports internationaux dont le président a parlé, je crois que c'est tout à fait opportun de dire ce genre de choses, parce que l'essence même de l'ONU, c'était de permettre un monde beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus juste. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, pour les mêmes faits, on peut punir le président du Soudan parce qu'il n'a pas de protection, on peut lui lancer des mandats d'arrêt par la CPI, pas toujours impartial, alors que les dirigeants d'Israël, eux, sont protégés quoi qu'il arrive, parce que les États-Unis mettront un veto chaque fois que Israël veut être poursuivi. Aujourd'hui, la Palestine doit être agréée à l'ONU. C'est impossible parce que les États-Unis vont s'y opposer. Et ce n'est pas normal. Disons, non, c'est une démarche unilatérale. Mais qu'est-ce qui est unilatéral? La création des deux États en Palestine a été décidée par l'ONU depuis 1948. Et en même temps aussi, il faut dire quand même à nos sociétés qu'aujourd'hui, les Africains qui essaient de prendre conscience, je crois que de plus en plus, on réalise qu'une institution comme la CPI est là et qu'elle est de plus en plus tournée à réprimer les chefs d'État du Sud ou les hommes politiques du Sud, quand ceux du Nord seront toujours protégés. Alors là, quand nous regardons, c'est un petit coup d'œil au rétroviseur, le plus grand donateur des clients de la CPI, c'est toujours notre chef de l'État, il faut encore le dire encore une fois.
Merci. Notre deuxième thème de ce soir est revendication du magistrat. Le gouvernement dit ne pas être en mesure d'accorder en ce moment les 1 600 $ exigés par les magistrats. Pas de reprise de travail, ni service minimum dans les parquets et tribunaux du pays jusqu'à nouvel ordre. Ainsi, on a décidé, le syndicat autonome des magistrats du Congo a uni lundi dernier en assemblée générale extraordinaire. À l'occasion, le comité directeur du SINAMAC a restitué les résultats des concertations amorcées avec le cabinet du chef de l'État. Il en ressort que le gouvernement consacrerait plus d'efforts au financement des élections et qu'il serait tenu à observer les recommandations du FMI. Par conséquent, 600 000 francs congolais sont proposés aux magistrats débutants au lieu des 1 600 $ annoncés par le chef de l'État dans son dernier discours de Kingakati. Mais le magistrat ne jure plus que sur la paix des 1 600 $ considérés comme déjà acquis. Écoutons à ce sujet le président du SINAMAC, Sambaï Mupinda, au micro de Jeff Congoï.
On n'a jamais convenu de l'arrêt de la grève aujourd'hui. Nous avons, après avoir entendu la communication faite par le président, qui venait en fait corroborer ce que nous avions déjà exposé à la primature, nous avions cherché à savoir où partait l'argent destiné à la paix des magistrats. À cette occasion, il nous a été dit que le principe était acquis. Mais néanmoins, sur terrain, notre salaire-là n'est pas celui-là qu'on va en discuter en commission. Bien sûr qu'avant d'aller à cette assemblée, le ministre nous a fait appel pour qu'on puisse envisager la possibilité d'entamer déjà les travaux en commission. Mais comme il y avait d'autres membres qui étaient empêchés, nous avons convenu que cette commission reprenne ses travaux le mercredi. La grève est maintenue.
Quelle est la condition pour reprendre?
Nous avons demandé qu'on paye ce dont le président a parlé, parce que nous sommes dit à la tête de l'État, ça ne ment pas.
Nous allons lire les lignes de certains journaux. Nous avons le quotidien Le Potentiel qui dit « Le magistrat du SINAMAC maintient la grève ». Nous avons le quotidien Le Palmarès qui dit « Controverse autour du salaire des magistrats, le SINAMAC maintient la grève ». Nous avons le quotidien Le Phare qui dit « Paye-t-on des 1 600 $ pour les magistrats, le SINAMAC pour le maintien de la grève ». Et enfin, nous avons le quotidien L'Avenir qui dit « Controverse autour du salaire des magistrats, le SINAMAC maintient la grève ». Lorsque vous êtes en face des revendications des magistrats, comment vous les analysez?
Bien, ce que moi je dis là-dessus, c'est que voilà un corps professionnel qui était tranquille. Ils étaient tranquilles dans leur coin lorsque le président de la République est allé tenir un discours pour faire son bilan par la tête du pays et qui est allé raconter que ces gens ont 1 600 $. Non pas qu'ils vont commencer à les avoir, non. Qu'ils ont 1 600 $ depuis 2007. Eh bien, c'est une scène, c'est un peu légitime qu'ils disent où il y a deux possibilités, ou soit. Effectivement, le président dit vrai, c'est qu'on sort cette cagnotte-là pour le pays. Si on ne le paye pas, c'est que l'argent est détourné quelque part. ou alors le président ne dit pas vrai. Et s'il n'a pas dit vrai, il doit dire pourquoi, devant toute la nation rassemblée, il peut dire sortir une telle contre-vérité. Eh bien, ils ont protesté et depuis lors, le président s'est enfermé dans le silence. Aucune réaction pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Aucune réaction. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Donc, on engage des négociations avec la direction du cabinet du président de la République, on fait venir certains ministres, c'est le salaire qui sera payé à partir d'octobre, par paliers, il sera progressif. Non, le président a dit que nous avons salaire depuis mi-2007. On a d'abord nous dit, ça lui vient d'où cette affirmation aussi grave? Donc, il faut aussi savoir expliquer la communication à ainsi haut niveau est très important. Il ne s'agit pas seulement de faire des discours lus avec des papiers en main. Il faut savoir échanger. Le discours est souvent à sens unique. Mais l'échange est très important. Le président peut se mettre, par exemple, dans un amphithéâtre d'une université, tenir un discours, ensuite avoir un échange avec les étudiants, vu la hauteur intellectuelle qu'ont les étudiants. Ça permet, par leurs questions, au président de bien éclairer leur lanterne et par-delà la lanterne de tous les Congolais qui les suivent. Voilà, donc il faut qu'il y ait un exercice d'éclairage sur cette question-là. Jusqu'à présent, le flou est vraiment total et ce n'est que légitime que les magistrats puissent continuer à protester.
Jacques Diana, le magistrat n'a-t-il pas raison lorsque il agisse, quand il affirme que le chef d'État dit qu'il est tous 1 600 $ depuis plus de 2 ans, alors qu'en réalité, il manque environ 400 $ 450 $.
Écoutez, Guy, dans cette question, moi, parfois, ça me laisse perplexe. Et je constate qu'il y a beaucoup de mauvaise foi. Je suis souvent étonné de voir les gens parler, même les magistrats eux-mêmes, nous faire croire à nous que tous les magistrats, tous, ont le même salaire. Tel qu'on en parle. On dit que tous les magistrats, tous, un seul salaire, qu'il soit de 600 ou de 1 600. Est-ce que c'est possible, ça? C'est faux et à ce fond. La vérité, c'est que le salaire des magistrats varie entre 600 et 3 000 $.
Ce sont des précisions qui n'ont pas été données, malheureusement.
Mais tout à fait. Mais ce sont des précisions que nous, par exemple, nous considérons que c'est. Je pense que c'est un fait. Mais pourquoi on pense que les magistrats, tous, doivent avoir le même salaire? Le salaire dont on parle, qui doit être sur le salaire de quelle catégorie? Les débutants, parce qu'en fait, la réalité que nous avons découverte, c'est que le salaire va de 600 à 3000. Il y a là, dans cette tranche, il y en a qui ont 800, il y en a qui ont 1200. Mais est-il que la vérité, c'est qu'il n'y en a pas qui ont 1600. Mais le salaire des magistrats n'est pas unique. Mais lorsque eux-mêmes dépassent, c'est comme s'ils ont tous le même salaire et on doit le leur payer aujourd'hui.
Quelque part, il n'y a pas eu de déficit de communication.
Et tout à fait.
De la part du gouvernement congolais.
Mais tout à fait. Moi, je dis que parfois, le gouvernement refuse de communiquer. Moi, je pense que je dis que parfois, même au niveau de la présidence de la République, on doit réhabiliter la fonction du porte-parole du chef de l'État. Parce qu'il y a des histoires, le président ne doit pas se mettre à expliquer une histoire comme ça. Un porte-parole peut l'expliquer. Mais tu vois, les gens se jettent dans l'acharnement, profitant de l'environnement du moment pour y voir qui est mensonge, qui de l'argent détourné et tout cela. Mais personne ne réfléchit pour dire qu'il est impossible que les hauts magistrats et les débutants tous se battent pour un salaire de 1 600.
Mais vous auriez souhaité que les magistrats réagissent comment? Qu'ils restent passifs?
Non, je ne pense pas qu'ils devraient rester passifs. C'est des magistrats, au lieu de commencer par une grève, devraient commencer par une démarche pour aller dire voir le cabinet du chef de l'État, voir tout le monde. Et en fait, le 1 600 là dont vous parlez, c'est pour les débutants, et c'est pour ceux qui avaient déjà 800, et c'est pour ceux qui avaient 1 200, ou bien même ceux qui ont 3 000 doivent renoncer aux 3 000 pour avoir le 1 600. Est-ce que c'est normal ça? Ils devraient plutôt aller voir. Mais l'environnement est dans, et tout le monde s'y jette sans beaucoup de réflexion. C'est ça qui m'étonne. Vous savez que l'action syndicale, lorsque vous la mêlez avec autre chose que le syndicat, il est difficile d'avoir une solution. Et je m'attendais à ce que le gouvernement puisse donner la réponse qui est donnée aujourd'hui.
Serge Sekouli, Joachim Diana, lit la réaction des magistrats au contexte politique du moment. Est-ce que vous partagez ce point de vue?
En fait, je tiens à dire, j'étais avant d'être ici dans le même sens que lui. Il y a d'abord une chose, c'est qu'apparemment, il y a quelque chose vraiment qui ne va pas au sein du gouvernement. Je ne pense pas que le chef de l'État, sachant qu'il s'adresse à la nation, même si c'était bien sûr seulement à Kinshasa, c'est à l'occasion, bien sûr, de déposer un certain, donner un certain bilan par rapport à la mandature qui est presque en train d'achever. Je ne pense pas qu'il puisse avoir, ni par le simple plaisir, sinon, les magistrats sont jusqu'à 1 600 de dollars pour tout ce qui est du salaire. Mais je pense que cette revendication des magistrats, franchement, elle est vraiment pertinente. Il faudrait peut-être que dans les autres secteurs aussi, qu'on puisse quand même essayer de bousculer plus ou moins les gouvernements. Il y a plusieurs choses, et surtout, c'est sur le problème des chiffres. Donc là, il y a une communication qui ne va pas. Donc, c'est ces questions d'argent, évidemment, il y a à boire et à manger, on ne dit pas, on juste clairement ce qui se passe. Le président, même s'il a été dit que c'était déjà un principe acquis pour ce qui est des salaires de 1 600 pour ce qui est des magistrats, on risque de penser que c'est peut-être la base à ce niveau-là. Car on ne peut pas prendre le maximum, que c'est le montant qui est des magistrats, qui essaie d'avoir comme salaire tout ce qui est de l'ensemble de leurs avantages. Je dis qu'il y a apparemment un réel problème au sein de notre gouvernement, même pas seulement sur le plan de la communication, mais aussi sur les problèmes qui sont pris au niveau donc de notre gouvernement. Mais je pense qu'il fallait quand même plus ou moins que les magistrats puissent avoir pitié de l'ensemble de ces prisonniers, peut-être qui sont encore détenus, qui ne sont pas déjà condamnés, dont les procès étaient peut-être plus ou moins en cours. Vous savez, ce qui est dessus du cours de justice, où effectivement les gens peuvent aller même jusqu'à plus dans une prison sans avoir été condamné. Peut-être c'était le moment opportun, peut-être quand le dossier est en train d'évoluer, que subitement on puisse arrêter tout d'un coup. Là, je pense qu'ils sont en train de donner beaucoup plus de peine à l'ensemble de ces prisonniers qui espéraient plus ou moins pouvoir quitter l'ensemble de ces géants, alors que peut-être qu'ils sont encore des détenus provisoires.
De l'harmonie, l'autre aspect, c'est cette divergence de vue entre les différents syndicats de magistrats. L'intersyndicat de magistrats, s'il est d'accord sur le principe de l'amélioration des conditions salariales, cependant, elle suspige la procédure tendant, selon elle, à paralyser les activités des magistrats. Vous ne pensez pas que cette divergence de vue entre les syndicats des magistrats pourrait fragiliser leur action?
Oui, c'est possible. Je crois que il ne faut pas en faire un cas de Sibéli non plus. Cela tient de la démocratie même. Cela tient de principes élémentaires de démocratie. Nous avons été sous le MPR pendant de très longues années avec un syndicat unique. Nous n'en voulons plus. Il doit y avoir plusieurs syndicats. Eh bien, ceux qui sont les plus représentatifs finiront par imposer leur point de vue à l'ensemble. Ça, c'est clair. Ouais, il nous reste à savoir ce qui se passe effectivement sur le terrain. Mais je suis quand même à insister sur ce fait. Voilà ce que le président déclare, mot pour mot. Le président dit ceci. Le salaire des magistrats a connu un grand bond. Il est monté ainsi de 704 dollars en 2006, il est monté à 1414 en 2007, puis à 1450 en 2008, avant d'atteindre 1600 dollars en 2009. Ça, c'est mot pour mot que le président déclare. Dans ces conditions, lui-même déclare parler de quelle catégorie de magistrats? Si c'est une logique élémentaire, on ne peut parler que de la catégorie la plus basse, ça c'est clair. Parce que si le salaire va de 500 à 3000, il aurait pu parler de la catégorie la plus haute, il ne va pas choisir celle du milieu. Ça n'a aucun sens. Ça, c'est un. Deuxième chose, il faut quand même comprendre certaines choses. Lorsque le président fait un discours de la République, comment est-ce qu'on rédige ce discours? Parce que là, il s'agit d'aller faire le bilan de l'état de la nation. On met tous les services concernés, toutes les administrations concernées à contribution. Mais pour ce cas précis, le ministère de la Justice, le ministère du Budget, des Finances, de la Banque Centrale, devait apporter des éléments.
Et vous pensez que cela a été
bien, c'est encore plus grave ce qu'on a fait là-dedans qui sont extrêmement incompétents. Comment ils peuvent faire dire de telles choses au président devant toute la nation rassemblée? C'est extrêmement grave. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, de telles bourdes, il faut appeler cette chose par son nom. Le président a déjà signé une ordonnance nommant un ministre qui n'existait pas. Tout le monde connaît ça. Il a déjà nommé, promu des fonctionnaires qui n'avaient pas de droit et qualité, y compris un ministre de la fonction publique.
en fonction. C'est extrêmement grave. Alors, ceux qui sont commettre au président de telles bourdes ne sont même pas sanctionnés. Alors voilà, ça ne peut pas étonner qu'à la prochaine, de même personne revienne avec de telles manières de faire.
Jacqueline Diana, que proposez-vous pour résoudre de façon adéquate le problème des magistrats et de ce fait mettre fin à cette grève?
Tout à fait. Je vais commencer par dire que si je comprends bien, le chef de l'État, en partant du petit salaire du plus grand, il a parlé de la moyenne. Alors, en ce qui concerne quelle est la solution qu'on peut trouver à ce problème, moi j'estime que le magistrat doit devenir effectivement un pouvoir. Nous avons appris à l'école que dans toute démocratie, il y a le pouvoir judiciaire, il y a le pouvoir exécutif, il y a le pouvoir législatif. C'est le seul pouvoir qui est syndicat, c'est le seul pouvoir qui se comporte comme de simples petits fonctionnaires, c'est le seul syndicat qu'on voit dans la rue pour réclamer ça. On n'a jamais vu le pouvoir législatif en faire autant ou le pouvoir exécutif en faire autant. Ici, ce sont les moyens. Mais moi, je pense que c'est tout le temps. Ceux qui font la loi, ceux qui font la loi.
Vos propositions pour solutionner ce problème?
Donc, il faut qu'on amène le pouvoir judiciaire à jouer effectivement son rôle. Si pour jouer ce rôle, cela se trouve dans des sens matériels, dans des conditions de travail, il faut qu'on mette ces conditions pour qu'on n'ait pas des magistrats simples fonctionnaires qui tout le temps sont dans la rue pour réclamer du pain.
Merci. Nous passons à notre dernier thème de ce soir. Le processus électoral en République démocratique du Congo. La CENI a répondu favorablement lundi dernier au préalable de l'opposition politique, notamment l'audit du fichier électoral par 5 délégués de l'opposition et 5 de la majorité présidentielle. L'opposition politique congolaise et les bureaux de la CENI ont accordé leur violence sur le processus électoral en cours. C'était au cours d'une rencontre organisée à l'hôtel Mending par la CENI. Une rencontre dans le but de poursuivre le dialogue avec les partis politiques et les regroupements politiques non signataires du Code de bonne conduite. Le modérateur de ce parti de l'opposition, Jean-Pierre Lisanga Bonganga, au micro de Nzime Mukandila.
Aujourd'hui, nous sommes très contents parce que la problématique de l'audit du fichier électoral, aujourd'hui, nous comprenons que le bureau a accepté et nous pouvons donner les 5 noms et la majorité va donner aussi les 5 noms et ce pays nous appartient. Nous devons travailler pour l'intérêt du pays, mais nous voulons que les élections soient transparentes. Nous avons parlé des codes de bonne conduite et nous avons fait remarquer au bureau que les signataires, la majorité, ont commencé à violer même ceux qu'ils ont signé avec des discours, des programmes, la pré-campagne et avec quoi dans la vie. Il y a des banderoles, des calicots, des panneaux avec beaucoup de gens qui sont de la majorité. Et le bureau nous a réconforté en disant qu'il a déjà écrit au secrétaire général de la majorité et il a écrit au gouverneur de la ville. Nous pensons que du côté de la majorité, du côté du gouverneur de la ville, si on accepte vraiment l'autorité du bureau de la CENI, ils vont enlever peut-être en 24 heures.
Sachez aussi que la CENI projette à la fin de ce mois de publier des listes de 32 millions d'enrôlés par circonscription et celles des 62 000 bureaux de vote disséminés dans le pays avant la campagne électorale. Serge Vesikouli, je rappelle que vous êtes journaliste à la radio Moto à Butembo Beni, une radio qui émet depuis Butembo au Nord Kivu. Peut-on, avec cet accord CENI opposition, peut-on espérer avoir des élections dans un climat apaisé comme le souhaite tout le monde?
En fait, la CENI elle-même, lorsqu'il a un peu de faire dans ses confessions, que ce soit à l'opposition, soit à la majorité, le souci pour nous, c'est que ces élections puissent être d'abord apaisées. Mais l'ensemble des exigences quand même des deux parties, ça commence plus ou moins à être confirmé, à tel point que, bon, décidément, on commence à y voir un peu du flou par rapport à l'ensemble des exigences. Le simple fait de signer le code de bonne conduite, il fallait peut-être que cette opposition puisse plus ou moins présenter, dis-moi dans ce code, décidément, il y a tel point qui ne va pas du tout bien, et c'est là qu'on ne peut pas signer. Mais là, je donne plutôt une autre exigence, en se disant, non, bon, il fallait peut-être connaître d'abord l'ensemble de voir dans les serveurs centrales de la CENI, il y a combien d'électeurs, ainsi de suite. Alors, je dis que, décidément, il y a un peu de niche. Et surtout, un autre point qui fâche plus ou moins à l'opposition quand on a déjà présenté vraiment trois des 5 délégués qui sont tous, on le sait très bien, il y a M. Martin Fayoulou, il y a M. Valentin, c'est le chef de salle, qui sont en fait, qui se sont des politiciens. très parti politique. Moi, je dis qu'il fallait des experts, c'est des experts qui ont des sentiments. On ne dit pas que ce ne sont pas aussi des experts, mais il fallait des experts plus ou moins bon, qui sont même un peu indépendants. Mais l'autre, il y a beaucoup trop d'exigences, on ne sait pas juste où va nous mener à cette route que nous sommes en train d'emprunter à celle qui mène aux élections. L'enseigne, je pense qu'elle est assez raisonnable et elle est en train de faire au moins des concessions réalistes afin que les uns les autres ne puissent pas se sentir. Ce qui est bien sûr à craindre, c'est que peut-être la majorité, alors que bon, on a proposé qu'il y ait des experts, 10 experts 5 dans les positions 5 par la majorité, si la CNU aussi fait diverses pour pouvoir présenter la forme des experts, vous voyez que la majorité sera encore un tout petit peu bloquée. Et je pense que les deux partis, que ce soit de l'opposition ainsi que la majorité, devraient être un peu plus raisonnés, voir comment ne pas essayer de mettre les bâtons dans les roues dans ce processus des échanges.
Bernard Mouly, vous êtes directeur général du journal La Renaissance de la Nation, il y a une hebdomadaire qui paraît ici à Kinshasa. Cette question de l'audit et du serveur suscite la polémique, il y a même le député de l'opposition, Denis Kessanga, qui est président d'un parti de l'opposition, qui pense que cette question du fait de l'opposition.
Bien, Denis Kessanga doit savoir ce qu'il veut. Une famille politique qui se présente aussi à une élection ne peut pas continuer à tirer à U et à Dia à tout bout de champ. Non, peut-être qu'il n'a pas suffisamment une grande expérience pour savoir comment se fraudent les élections. Moi, je n'accuse pas la CNU de pouvoir faire des fraudes.
Et parce que c'est en 2006.
Non. Là, j'étais candidat, comme tout le monde. Je ne veux pas que ça ne lui donne pas une grande compétence dans la capacité, dans l'art de la fraude. Il n'en connaît certainement pas grand-chose. Ceux qui protestent, peut-être, certainement, ils savent comment en Afrique cela se fait. Sinon, comment est-ce qu'on arrive à enregistrer les gens qui kiffent, ainsi de suite. Je ne dis pas que forcément que c'est le cas de la CNU. Mais s'il y a des gens qui ont ce genre d'appréhension, et que de l'autre côté, la CNU se montre coopérative, saluons. Pour une fois, voilà quand même des gens qui mettent un tissu sur la table des revendications, et de l'autre côté, on accepte pour effacer, franchement, toute divergence. Pas mieux qu'on le fasse. Ici, la finalité est de mettre tout le monde d'accord. C'est une bonne chose. Où est le problème? Quant à savoir si ceux qu'on va désigner doivent être indépendants ou des représentants des partis politiques, non. Ça ne peut qu'être des représentants des partis politiques. Moi, ce sont les partis politiques qui ont mis en avant cette exigence. Ils ne veulent que mettre les leurs, dont ils sont sûrs, dont ils répondent carrément, en sachant qu'ils feront vraiment le travail tel qu'il leur a été franchement demandé.
Jacques Indiana, vous êtes directeur de publication du journal La Colombe, un petit hebdomadaire qui paraît ici à Kinshasa. Et on apprend que l'opposition a déjà désigné ses délégués pour auditer les serveurs, mais la majorité semble réticente. Et comment vous comprenez cette attitude de la majorité présidentielle?
Écoutez, je commencerai par être du même avis que Denis Kessanga, que c'est tout à fait une distraction, je vais le démontrer. En ce qui concerne la majorité, je pense que la majorité doit aider la CENI à amener l'opposition à découvrir sa bêtise. En fait, c'est quoi?
Qu'est-ce que j'appelle bêtise?
C'est ce que j'explique. L'opposition veut aller auditer le serveur. Mais le pasteur Daniel Goïmoun a leur dit que le serveur, il donne un exemple très illustratif. Il dit que le serveur, c'est comme une casserole qui vous a permis de préparer le foufou. Quand on prépare le foufou, on ne le laisse pas dans la casserole. On le retire, on met sur les assiettes, on distribue, et ça, on mange. Et c'est ce qui est le serveur. C'est ça, c'est lui, le président de la CENI, dit que dans le serveur, il n'y a plus rien.
Et s'il n'y a plus rien, pourquoi il ne permet pas l'opposition d'accéder à la
casserole? Tout à fait, c'est ce que je dis. C'est pourquoi ben, le président leur demande d'aller. Ils vont voir ce qu'il y a là-dedans.
Et la condition que la majorité désigne ses délégués.
Mais tout ça, il se pose un problème à ce niveau. Et là, je demande à la majorité d'aider le président de la CENI à faire découvrir que effectivement, il y a du temps perdu, que l'opposition veut perdre le temps et qu'on l'aide à perdre son temps. Parce qu'en fait, eux ne pas rien. S'il faut auditer le fichier électoral, la loi demande que ce fichier soit affiché. Ce qui est dans le serveur, c'est ce qui sera mis sur liste et qui sera affiché et devant le bureau de vote. Il n'y aura pas quelqu'un qui ira voter sans trouver son nom sur la liste. Ça, c'est un. De deux, le vote sera manuel. Si le vote était informatisé, on pourrait dire qu'en votant là-bas, les votes manuels, les votes seront comptabilisés dans chaque bureau de vote qui se transformera en bureau de dépôt. Moi, je pense que c'est bien une perte d'État inutile.
Merci pour la fin de cette émission. Sylvain Matin était à la technique, Samuel Kassiak à la réalisation, sous la supervision de Télé-Équipe La Mondo, devant ses micros Guy Maté. Merci et bon suite de programme sur Radio Okapi. Thank you.